Bonjour mes frères et sœurs, je vous invite à faire une lecture dans Luc, l'évangile de Luc au chapitre 8 et au verset 10. Jésus dit, à vous il a été donné de connaître les secrets du royaume de Dieu, mais aux autres c'est sous forme de paraboles qu'ils sont enseignés, afin qu'ils puissent regarder mais sans voir, et qu'il puisse écouter, mais sans comprendre. Seigneur Jésus, je te prie que ceux qui doivent entendre ce soir entendent ce que j'ai à dire de ta part. Merci Seigneur de donner à chacun de l'intelligence par ton esprit. Que ton nom soit béni, mon Dieu. Amen. Ce soir, je voudrais apporter un message, bien sûr, tout en sachant qu'il risque fort de ne pas être compris par la majorité d'entre les personnes qui vont l'écouter sur Internet. Je parle des frères qui viennent sur Révélation Bible, je ne parle pas des frères et sœurs de la communauté qui sont tout à fait au clair, au courant de toutes ces choses. Bien sûr, puisque non seulement je les enseigne, mais on en parle entre nous, et voilà. Il y a quelque temps, je vous ai parlé de 3 degrés de gloire que nous pouvons atteindre ici-bas, et qui seront glorifiés, magnifiés, après notre résurrection. Ces degrés sont semblables l'un au soleil, l'autre à la lune, l'autre aux étoiles. Vous vous rappelez, c'est l'apôtre Paul qui dit ça, en disant « Ainsi en sera-t-il à la résurrection ?» Et voilà. Donc, il est évident que le soleil, la lune et les étoiles sont, dans le langage de Paul, des symboles. Dans la Bible, Dieu, dans son amour, nous parle ouvertement de tout, mais tous ne comprennent pas parce que beaucoup de choses sont cachées sous forme de symboles, justement. En fait, Dieu n'a pas de secret pour ses enfants. Pour les autres, oui. Il parle de choses spirituelles en utilisant des mots humains qui sont limités. Alors déjà, ça limite vous savez que les paroles trahissent toujours un peu la pensée. Et ensuite, il parle au travers de symboles qui peuvent être interprétés. Et nous avons des esprits plus ou moins ouverts, et nous pouvons interpréter les paraboles de façon erronée, ou juste, ou à moitié juste. Donc en fait, ce qu'il dit dans la Bible reste est un secret par nature, en quelque sorte, un secret intransmissible aux incrédules, c'est-à-dire aux non-initiés. Il ne suffit pas de lire la Bible pour comprendre son message. Parce qu'on trouve l'Esprit de Dieu que par notre esprit. C'est par l'Esprit, notre esprit, que nous sondons les choses de Dieu. Et c'est à notre esprit que Dieu parle, non pas à notre chair. N'est-ce pas ? Et tout ce que Dieu dit est inaccessible à l'intelligence cérébrale. À part, évidemment, les lois morales. Quand Dieu dit « tu ne voleras pas », on comprend très bien ce que ça veut dire. Il n'y a pas besoin d'interprétation là-dessus. En fait, aucun serviteur de Dieu sérieux ne peut expliquer le savoir sacré. Et tout ce qu'un serviteur de Dieu sérieux peut faire, c'est de mettre des mots à la place des pensées révélées de Dieu. Vous voyez, voilà pourquoi il y a tant de confusion. Je n'ai aucune prétention de supériorité intellectuelle. Je ne parle que de ce que j'ai reçu par le Saint-Esprit. C'est tout. C'est rigolo. Je vous parle de ça parce que l'autre jour, j'ai dû emmener quelqu'un de très cher aux urgences, à l'hôpital, donc, le médecin est sorti au bout d'un moment, il m'a trouvé dans la salle d'attente, il m'a dit « Monsieur, je vois que vous êtes un intellectuel, vous allez pouvoir comprendre », et puis alors il m'a pas. Ça m'a fait marrer parce que à quoi il voit que je suis un intellectuel. Et en fait, des gens s'imaginent que je suis un intellectuel, mais je ne suis pas un intellectuel. Les choses que je sais, je les sais, c'est tout, parce que je les ai apprises, comme tout le monde peut apprendre. Et puis il y a d'autres choses qui sont révélées, et là ça n'a rien à voir avec l'intellect. Comme disait Jésus, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Et s'ils n'ont pas d'oreilles faites pour entendre ces choses, bah ils y sont pour rien. Vous voyez? Ils peuvent être très intelligents par ailleurs, très intellectuels, mais s'ils n'ont pas des oreilles faites pour entendre ce que l'esprit dit, ben, ils ne comprendront rien. Donc, je n'ai pas la prétention d'être un intellectuel des choses spirituelles, parce que déjà, premièrement, être un intellectuel des choses spirituelles, c'est un non-sens. Ça n'existe pas. Jésus et son Père nous parlent dans les Saintes Écritures, par paraboles, au travers de faits historiques dont on peut tirer des leçons, on appelle ça la typologie, par le moyen de poèmes aussi, vous avez des psaumes, toutes les proverbes, les symboles, et tout cela, mais je pense que ça incline à l'humilité. Pourquoi ? Mais parce que l'étude de ces choses ne débouche pas sur une définition. Dans le mot définition, il y a le mot fini. Ça ne débouche pas sur une définition, ça ne débouche pas sur un dogme. Rien de ce qu'on trouve en esprit ne débouche sur une vérité définitive. Tout est toujours en évolution. La révélation est progressive. Alors, nous approchons de ces choses sacrées, et ça demande de l'humilité. Alors, vous qui me suivez sur Révélation Bible, vous vous plongez dans un effort d'humilité, de remise en question, de travail personnel et surtout de chasse aux idées reçues. Parce que c'est vrai que je ne nage pas toujours dans le même sens que les autres. En vérité, le véritable enseignement, celui qui vient du Saint-Esprit, s'adresse à notre esprit éternel qui est en nous. Alors, depuis que je suis converti, l'essentiel de ma vie, ça a été de transmettre une flamme d'esprit, des pièces en or immatérielles que très peu sont aptes à recevoir. Vous savez, ceux qui connaissent mon témoignage, qui ont lu l'oracle ou le veilleur, sont au courant de cela. Ça m'avait été annoncé par un monsieur Pache, alors que je n'avais que 7 ou 9 ans, je ne me rappelle plus exactement. Que je placerais des pièces en or devant les gens, mais que les gens partiraient dans les ténèbres, pensant qu'elles sont fausses. Alors bon, je ne me sens pas toujours à la hauteur de ce que j'ai reçu, mais quand même, ayant été immergé dans le Saint-Esprit, nous sommes immergés dans le Saint-Esprit pour être des témoins, je ne peux pas me taire. Je suis témoin de ces choses, je ne peux pas me taire, il faut que je le dise, il faut que j'en parle, il faut que je témoigne. Jésus a dit, celui qui cherche, trouve. C'est donc pas un enseignement et une vie pour la majorité, mais c'est pas non plus un enseignement qui est réservé à une élite. C'est juste pour ceux qui cherchent. Avec une bonne intention. Et ils cherchent parce que ils en éprouvent le besoin. Ils ont été faits comme ça. On a été fait comme ça. On a été fait avec des oreilles pour entendre ces choses. On a été fait avec ce désir de chercher, avec de bonnes intentions, pour trouver réellement la pensée de Dieu. Que voulez-vous que je vous dise ? Alors, je vous ai déjà parlé de ce que c'est que l'initiation dans une prédication ou deux, déjà il y a quelque temps, et je vais juste vous rappeler 2-3 trucs. Le mot initiation, c'est pas un mot diabolique. Le mot ne se trouve pas dans la Bible, c'est vrai, mais le mot initiation, ça vient du latin initiatio. Et l'initiation, c'est le processus par lequel un novice acquiert un statut spirituel plus élevé par l'acquisition de la connaissance. Mais ça marche dans tous les sens. Ça marche dans tous les sens. Moi, j'étais apprenti en sablier décorateur, ben, j'étais un novice, et puis j'ai acquis, de par mon maître, c'est-à-dire mon patron et les ouvriers qui étaient là, une connaissance et une pratique qui a fait que je suis devenu en sablier décorateur moi-même, avec le diplôme, tout tamponné par l'État, etc. etc. Donc, j'ai commencé par le bas et je suis monté. Un initié, c'est ça. Ce mot n'est pas utilisé que dans les milieux chrétiens, mais pour un chrétien, l'initiation, ça commence le jour de sa conversion, quand il prend conscience qu'il a péché. Et ça commence le jour de son entrée dans l'Église de Jésus-Christ. Je ne dis pas dans l'Église pentecôtiste, ou l'Église protestante, ou l'Église catholique, tout ça c'est des trucs humains, je parle dans l'Église de Jésus-Christ. Dans l'initiation, il y a l'idée, vous pouvez regarder, si vous regardez sur un bon dictionnaire, vous allez vous en apercevoir, il y a dans le mot initiation l'idée de cérémonie, comme par exemple, pour ce qui est de nous, les chrétiens, le baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est une cérémonie symbolique, n'est-ce pas? Nous sommes là, nous sommes dans notre élément, c'est-à-dire sur la terre, nous respirons de l'air et nous sommes plongés, immergés dans un élément qui est un élément de mort. Si on vous laisse longtemps dans l'eau, vous allez mourir. Donc on quitte notre élément naturel et puis on ressort en nouveauté de vie. C'est un symbole. C'est le symbole du fait que nous appartenons à Jésus-Christ. Ou alors l'imposition des mains de la part de la prêtrise supérieure, c'est-à-dire des ministères, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs. Nous devons être appelés par prophétie, etc., etc., comme selon l'ordre d'Aaron, tout ça c'est dans la lettre aux Hébreux, vous le savez. Mais il y a aussi l'idée, dans le mot initiation, il y a l'idée d'épreuve. Et les épreuves, ben, tous les disciples de Jésus connaissent. Je me rappelle de Bill Williams, qui était directeur à Teen Challenge, il nous disait, vous savez, quand on invite les gens à venir à Jésus, on devrait leur dire, vous avez des problèmes, venez à Jésus, vous en aurez de nouveaux. Quand on est avec Jésus, on a des nouveaux problèmes, des nouvelles épreuves, des épreuves. Par exemple, chez nous, les frères et sœurs qui veulent entrer dans notre communauté, ils passent par une mise à l'épreuve. On cherche à savoir quelles sont leurs motivations. C'est normal. Ils apprennent que nous mettons tout en commun et que ce qui est à toi est à moi. Ils se disent, waouh, c'est super, je vais être propriétaire d'un château, c'est génial, c'est merveilleux. Non, il faut savoir quelles sont leurs motivations. Si c'est vrai. Vous voyez, Ananias et Saphira avaient une mauvaise motivation. Il faut qu'on connaisse, il faut qu'on sache, donc ça ne se fait pas tout de suite. Quand quelqu'un vient nous dire, je voudrais vivre en communauté, on n'est pas là tous à sauter au plafond dans la joie parce que quelqu'un dit, je veux venir en communauté, pas du tout. On passe du temps avec cette personne, à parler, à manger avec, se promener, discuter, poser des questions, et puis la personne nous en pose aussi pour nous éprouver, pour voir si nous sommes vraiment ce que nous prétendons être. Et il y a un temps de réflexion, il y a un temps de prière, il y a un temps où la personne se trouve seule face à elle-même et réalisant toutes les questions qu'on lui a posées et tout ça, et ça peut être un temps plus ou moins long, ça dépend tout, le cœur de la personne. En fait, ce qui nous éclaire le plus, à nous autres dans la communauté, c'est dans le temps, hein, c'est de voir si la personne veut vraiment travailler. Je dis pas si elle veut faire la vaisselle ou si elle veut, c'est pas de ça dont je parle. C'est certain qu'une personne qui rentre en communauté va devoir faire la vaisselle. Ou le ménage, ou toutes sortes de choses. On n'est pas une bande de, même vous allez chez les moines, vous allez voir, ils bossent, hein. Alors, je parle là de travail sur elle-même. Est-ce que la personne veut vraiment faire un travail sur elle-même? D'abord pour changer certaines choses de sa vie passée. Je me rappelle d'une personne qui a dit « Mais moi, je pourrais pas vivre en communauté », après avoir parlé. Elle était toute contente. Tout d'un coup, elle dit « Non, je pourrais pas, parce que moi, le matin, moi, j'aime bien prendre mon petit café en nuisette, et je peux pas, je pourrais pas prendre mon petit café en nuisette s'il y a tous les frères et sœurs. » Et en fait, c'était un peu... Vous voyez, c'est bizarre, hein. C'est bizarre, mais donc ce travail de renoncer à certaines choses, certaines habitudes, certaines, même c'est pas péché de prendre son café en nuisette, mais c'est certain que quand on vit avec des frères et sœurs, on peut pas, faut avoir un minimum de décence quand même. Donc elle avait réalisé que voilà. Et c'est là que souvent ça coince quand c'est avec des petits détails. Très souvent c'est des petits détails, comme nous dit la Bible, c'est des petits renards qui font des brèches dans les murs pour aller dévorer toute la vigne, n'est-ce pas? Les petits détails. l'ego de certaines personnes est souvent très important. Et alors il vaut mieux attendre un petit peu. Il vaut mieux attendre un petit peu plutôt que nous être déçus, puis la personne aussi être déçue. C'est arrivé déjà. Alors, il y a des personnes qui le prennent très mal et qui nous insultent parce qu'on dit non, voilà, on ne sent pas la chose et tout. Ben voilà, ils ont fini de passer l'épreuve. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire que ces personnes ne seront pas sauvées. Jésus nous enseigne qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. C'est bien. Et c'est bien dans le monde futur, mais c'est déjà ici-bas la même chose. Il y a déjà ici-bas plusieurs demeures dans la maison du Père. Tout le monde ne peut pas vivre en communauté. On n'est pas prêt aujourd'hui à vivre en communauté. Voilà. Comme moi, je ne suis pas du tout prêt à aller vivre dans une église catholique ou protestante ou baptiste ou quoi que ce soit, ou pentecôtiste. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça ne m'est pas donné. Vous voyez, en haut, au ciel, c'est comme dans l'église ici-bas. Il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Alors, on ne condamne pas les gens qui ne veulent pas vivre en communauté ou qui ne peuvent pas vivre en communauté. On ne les condamne pas. Mais il ne faut pas nous condamner non plus nous-mêmes. D'accord? Comme ça, tout le monde est content. Alors, la communauté de Jésus-Christ n'a pas besoin d'être grande. Elle doit juste être juste. Avec les prêtrises confirmées, telles que je vous l'ai déjà enseigné. Et puis alors là, il suffit d'être deux ou trois frères et sœurs qui marchent dans le même sens que le ministre qui était donné à l'Église pour que tout aille bien. Et puis qu'elle progresse. Comme le dit Jésus, hein, quand deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors quand on en est là, on n'a pas besoin d'espérer pour entreprendre. Les choses viennent de par Dieu. Alors évidemment, on a des désirs plus ou moins forts, alors on les partage, puis on se met d'accord, on prie pour ça, mais de toute façon, on sait que c'est Dieu qui fait comme il veut, et on est tout à fait dans le calme et la confiance, on n'a pas besoin d'espérer pour entreprendre. On entreprend des choses, puisqu'il marche, ça marche, qu'il marche pas, ça marche pas. Point barre, hein. Et il n'y a pas besoin non plus de réussir pour persévérer, parce que vous avez des gens, ils se lassent, alors ils arrêtent de persévérer, il faut pas. On sait qui on est, on sait qui nous a appelés, on sait que Dieu nous conduit, donc on persévère dans toutes les choses saintes, les choses sacrées, la communion fraternelle, le pain et le vin, la prière, enfin toutes les choses qu'on connaît dans la Bible. Alors bien sûr, il y a souvent des critiqueurs à l'extérieur de la communauté, mais aussi à l'intérieur. Ça on a vu, hein. Et vous savez pourquoi il y a ça? Parce que Dieu procède toujours ainsi. Lisez la Bible, vous allez voir, c'est comme ça. Vous avez toujours des gens qui murmurent entre les portes. Hein, vous avez eu Corée, vous avez eu Dathan, vous avez eu l'histoire de Marie à Aaron, tout le temps des gens qui rouspètent, qui sont pas contents, qui voudraient être le calife à la place du calife. Bon. Et puis, on sait bien que, de toute façon, l'opposition est nécessaire à l'évolution. S'il n'y a pas d'opposition, on reste statique, on a tendance à se reposer sur nos lauriers, à être content de ce qu'on a déjà fait, puis ça ne bouge plus. Alors il nous faut de l'opposition pour que ça nous fasse bouger. Ceux qui évoluent, évoluent grâce à Dieu, grâce à la communion et à l'amour fraternel, et grâce aux oppositions. On ne peut pas enlever ça, c'est comme ça. Lisez toute la Bible, vous verrez, c'est toujours comme ça. On le sait, voilà. Bon, on n'aime pas passer par... on n'aime pas l'opposition, c'est sûr, mais que voulez-vous qu'on y fasse? C'est comme ça, ça fait partie du plan. Donc, tout commence à la conversion, lorsqu'on prend conscience, parce que le Saint-Esprit nous le montre, que nous sommes pécheurs. Et la conversion, c'est un acte, je dirais, charnel. C'est-à-dire, c'est un acte qui vient de nous. N'importe qui peut décider de se convertir. Moi, je me suis toujours marré quand j'entendais des chrétiens qui disaient « Alléluia, je vais vous raconter mon témoignage, voilà, j'ai rencontré Jésus et depuis, eh bien, je fume plus. » Bon, pardon, c'est très bien. Mais moi, mon père ne s'est pas converti, puis un jour, il a réalisé que c'est une folie de fumer, il a arrêté de fumer, mais du jour au lendemain. On n'a pas besoin de se convertir pour arrêter de fumer. On peut changer de route, on peut arrêter. Je connais des gens qui étaient alcoolos, qui ont arrêté tout d'un coup. Voilà, parce qu'ils se sont rendus compte de leur folie. ou avec toutes sortes de choses, toutes sortes de trucs. Non, se convertir, donc, c'est humain. On choisit de se convertir, on fait le pas de la conversion, c'est-à-dire de changer de route, de faire autrement, d'agir autrement, de se comporter autrement. Mais suite à la conversion, il doit y avoir la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, ça, c'est l'œuvre de Dieu. Là, on ne peut rien fabriquer. L'homme n'y peut rien. Si Dieu fait naître de nouveau, il fait naître de nouveau. S'il ne fait pas naître de nouveau, on n'y peut rien. Personne n'y peut rien. Vous pouvez être baptisé, aller à l'église, donner vos offrandes, donner votre dîme et même plus, et faire tout ce qui est à faire. Un jour, vous laisserez tomber. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas né de nouveau. C'est terrible. La conversion, je ne dis pas laisser tomber l'église locale, je dis laisser tomber Dieu. Différent. Parce qu'on peut laisser tomber l'église locale pour toutes sortes de raisons. Mais je parle là de laisser tomber le Seigneur, et j'en ai vu des gens comme ça. La conversion, ce n'est pas la nouvelle naissance. Vous devez naître de l'esprit. C'est pour ça que dans la communauté, on ne pratique plus le baptême par immersion dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ trop vite. Nous voulons être certains que les gens sont nés de nouveau. Parce que pendant longtemps, j'ai baptisé des gens vraiment trop rapidement. Et j'ai vu que c'était pas bien. J'ai compris que c'était pas bien. J'ai baptisé plein de gens, ils sont partis dans la nature, on ne sait pas où ils sont. Ça n'est pas bien. On parlera de ça dans une de mes prochaines prédications, un autre vendredi sans doute. Parce que le baptême, c'est un symbole initiatique. C'est un symbole qui montre qu'on a quitté ce monde pour entrer dans un autre monde qui est l'Église de Jésus-Christ, le royaume de Jésus-Christ. Jésus, tout à l'heure, disait, à vous, il était donné de comprendre les secrets du royaume. Ah, il n'y a pas beaucoup qui comprennent. Ouais, ils peuvent bien comprendre qu'il faut se convertir, ils peuvent bien comprendre la doctrine du baptême, se faire baptiser, mais c'est une initiation. Ça fait partie d'un processus, comme je disais tout à l'heure. Le baptême, ça doit être quelque chose de tellement fort que ça doit marquer la personne au plus profond de son être, d'une façon indélébile, au point d'être lié, relié dans le lieu très saint qui est dans les cieux. On en reparlera. Pour le moment, on va s'arrêter là. On va se contenter de ce que j'ai dit. Méditez, priez, et que Dieu vous bénisse. Merci Jésus pour ce début d'enseignement que je vais donner au sujet de ces choses, de tous ces symboles, que tu permets que nous puissions comprendre ou ne pas comprendre. Permets, Seigneur Jésus, que je puisse, avec les mots les plus simples, expliquer les choses les plus spirituelles de façon à ce que ceux qui doivent entendre. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Au revoir.